Tristan Bernard, féerie bourgeoise. Chapitre 1. Ce jour-là, chez M. Bernard Lunéville, on attend Mme Levrault, la sœur de Bernard. Elle habite Dijon avec son mari et ses enfants et n'est pas venue depuis 3 ans à Paris. L'appartement et le bureau de Bernard se trouvent au premier étage d'une maison de la rue Réaumur. Depuis 1888, M. Lunéville y vend des diamants et des perles. Il en a été exilé pendant 10 mois, au moment où l'on a démoli et rebâti l'immeuble pour le mettre à l'alignement. Durant ce laps de temps, il a émigré à côté pour ne pas trop changer l'adresse de la maison. Et ce petit déménagement provisoire n'a pas nui à ses affaires. Bernard est veuf depuis 10 ans. Madame Lunéville a succombé à toutes sortes de maladies, après avoir gémi pendant des années et annoncé constamment son décès pour la semaine suivante. On avait fini par croire que cette santé si chancelante chancellerait éternellement. Et l'événement fatal a frappé encore plus douloureusement la famille que ne lui fait un dénouement moins escompté. Bernard a un enfant unique, une jeune fille de 18 ans, au visage songeur et tendre. Claire aime beaucoup sa tante Levrault et se réjouit vraiment de la revoir, peut-être aussi parce qu'elle a l'espoir de l'étonner un peu. Tante Sarah ne manquera pas de la trouver très changée, tout à fait jeune fille maintenant. Mais c'est surtout tante Louise, la sœur de feu Madame Lunéville, une maigre et taquine vieille demoiselle, qui s'apprête à éblouir la tante de province. Tante Sarah, de son côté, s'attend à cela, et dans le train qui l'amène à Paris, se prépare une âme rebelle à tout éblouissement. À 6 heures du soir, la famille, Bernard, Louise, qui habite chez Bernard, et la jeune Claire, s'enfoncent dans le métro pour gagner la gare de Lyon. Bernard, qui pendant toute sa jeunesse a voyagé sur tous les réseaux, est un grand expert en organisation de départ et d'arrivée. Aussitôt à la gare, il s'informe du retard des trains et voit qu'il n'y a rien de signalé pour l'express de Dijon. 10 minutes donc avant l'heure d'arrivée, il va retenir un taxi auto. On a amené une des bonnes, à qui on remettra le bulletin de bagages et qui se débrouillera avec un autre taxi. On ne peut attendre la malle de l'attente. Il faut se mettre à table à 7h30 exactement. Le principe de la régularité dans les heures des repas domine toute la vie de la famille Lunéville. Bernard est un homme corpulent. Il n'est pas gras de nature, mais l'âge et son autorité en affaires l'ont fortement épaissi. Il n'a rien de la jovialité des hommes gros. Certes, il ne dédaigne pas de rire aux plaisanteries qui en valent la peine, mais il est rare qu'il en profère lui-même, en dehors cependant de 3 ou 4 anecdotes que son entourage écoute avec une joie rituelle. Bernard est bon pour ses parents peu fortunés. Mais faut-il dire bon? Il leur vient en aide par devoir, sans le moindre plaisir. Dans son commerce, il se montre assez strict et oblige ses débiteurs à s'acquitter aux échéances. Il ne renonce aux moyens de défense dont la loi l'a armé que lorsqu'il se trouve en présence d'une insolvabilité certaine. Toutefois, fût-ce à l'égard de ceux qui peuvent payer, il ne se montre pas d'une sévérité arabe. On cite même de lui quelques traits de générosité. Le dîner préparé en l'honneur de la tante Sarah est confortable. La famille Lunéville, originaire du Haut-Rhin et des Vosges, a gardé une tradition exacte de certains plats alsaciens et lorrains. On y mange d'excellents choux rouges et des saucisses courtes. Une purée de pois recouvre, comme une surprise, de fermes morceaux de bœuf fumé. Tante Louise avait attendu le dîner pour commencer la grande séance d'éblouissement. Elle raconte qu'ils sont allés 7 fois au théâtre depuis le début de la saison, et les 7 fois avec des billets de faveur, mais pas des billets de faveur ordinaires. Tantôt la loge du préfet, tantôt celle des Beaux-Arts. Elle ajoute « C'est un monsieur qui vient souvent ici, une relation de Bernard, un écrivain. Il nous donne des places sans que nous lui en demandions. » Elle passe en revue les pièces qu'ils ont vues. Elle préfère l'opéra et Bernard le français. La tante de Dijon pénètre timidement dans la lice en faisant le récit d'une représentation de bienfaisance organisée au théâtre municipal et qui a éclipsé toutes les manifestations de ce genre. Sans parler du préfet, on avait noté dans la salle la présence du général commandant la subdivision, de l'évêque, du premier président et du recteur. La représentation était donnée avec le concours des meilleurs artistes de l'opéra et de la comédie française. « Lesquels ?» demande agressivement tante Louise. Tante Sarah nomme 2 ou 3 sociétaires de second ordre. « C'était bien, » dit tante Louise, « mais ce n'est pas ces artistes-là que vous appelez les meilleurs du français, je pense. » Tante Sarah, pour s'épauler, cite alors l'opinion du recteur qui se trouvait dans la loge à côté et qui n'a pas tari d'éloge sur l'ensemble du programme. « Enfin, » dit Bernard, « nous aurons probablement une loge dans le courant de la semaine et l'on emmènera Sarah. » Au gré de Louise, M. Lunéville a masqué un peu trop indulgemment la défaite de Mme Levrault. Aussi, sans laisser souffler l'adversaire, reprend-elle un nouvel assaut. Elle ne parle plus de l'écrivain, leur ami, mais d'un ami de cet écrivain, un jeune homme de 28 ans, le vicomte de Bérin. « Je me suis informé, » dit Bernard, « c'est une très grande noblesse. Ils n'ont que des ducs et des marquis dans leur parenté. « Je connais d'ailleurs ce nom, » dit Sarah, beaucoup plus disposée à faire des concessions à son frère qu'à Louise. Le vicomte de Bérin appartenait en effet à une des premières familles de France. Il avait été mis en rapport avec Lunéville par Renaud de Sérisier, l'écrivain qui fournissait la famille de places de théâtre. Jean Sérier, plus connu sous son pseudonyme de Renaud de Sérisier, avait fait lui-même la connaissance de Lunéville à la suite de l'affaire suivante. Il avait acheté au magasin pour 3 000 francs de bijoux, des boucles et un pendentif qu'il avait payé avec des billets à 6 mois. Bernard Lunéville, qui n'ignorait pas ses besoins d'argent, l'avait mis en contact le même jour avec un petit marchand de bijoux qui s'offrait à reprendre, pour 2 200 francs payés comptant, le pendentif et les boucles. Ces différentes transactions avaient enrichi de 4 louis une personne âgée, une dame moringue, vêtue avec un luxe un peu fatigué, et qui elle-même avait mis en rapport Renaud de Sérisier et Lunéville. Les billets n'avaient d'ailleurs pas été payés à l'échéance, et depuis un an, tous les trimestres, on les prorogeait, en accroissant un peu le montant. Il avait fallu à Madame Moringue beaucoup d'activités et d'autres affaires pour ne pas gâter ses relations avec M. Lunéville. D'autre part, 2 ou 3 fois par mois, des billets de théâtre assourdissaient les murmures de Bernard. Le jeune vicomte de Bérin avait été amené par Renaud de Sérisier chez M. Lunéville un matin de printemps. Il fallait à ce nouvel amateur, passionné de bijoux, des bracelets, des bagues, des broches de la plus belle qualité, mais la joie de la possession serait vite émoussée chez lui, car il demandait en même temps un autre amateur de bijoux, qui lui reprendrait, dans le plus bref délai possible, ses précieux joyaux. Le jeune homme avait signé 30 000 francs de billets. Les renseignements sur sa famille étaient excellents. Son père, le comte de Bérain, ne possédait pas une fortune colossale, mais il était loin d'être gêné, sinon par une sérieuse parcimonie. D'autre part, on signalait dans la famille un grand-père breton et une tante angevine, tout près de franchir la lisière fatale, en laissant, bien entendu, dans ce bas monde, un certain nombre de titres aux porteurs. Monsieur Lunéville fit l'affaire, mais le premier billet de 7 500 francs ne fut pas payé à la date de l'échéance. Le soir même de ce jour, toute la famille Lunéville applaudissait Thaïs à l'opéra. Bernard était beaucoup plus riche que son train de maison ne pouvait le faire supposer. Une affaire de 30 000 francs qui lui donnait du tracas ne représentait pas pour lui une catastrophe. Il était vexé seulement, comme un joueur qui a raté son coup. D'ailleurs, on ne pouvait pas dire que M. Lunéville aimât l'argent. Il aimait en gagner, voilà tout, et s'il dépensait peu, c'était pour ne pas diminuer son gain. Il éprouvait une grande satisfaction morale à enregistrer un bel inventaire. Il n'était pas homme à faire une affaire d'usure caractérisée, car la loi lui disait alors trop expressément que ce n'était pas bien. Mais il trouvait naturel, quand le cas se présentait, de vendre des bijoux à un fils de famille, le plus cher possible, et de les lui faire racheter au rabais par un ami à lui. Il avait toute sa vie pratiqué ce métier, chaque fois qu'il en avait eu l'occasion, et sa conscience faisait aussi bien de rester tranquille, car il n'aurait pas compris ses reproches. Loin de là, il lui semblait que lorsqu'une affaire de ce genre se présentait, c'eût été un péché de la laisser échapper. Bien sûr, il savait que lorsqu'il recevait des places de théâtre, c'était parce qu'on voulait l'amadouer. Il les acceptait, avec une rancune qui s'astreignait à rester muette, car les billets faisaient tant plaisir à Claire et à Louise. Il ne manifestait donc devant elle aucun mécontentement. Flatté peut-être tout de même, et content de s'être procuré, même à un prix aussi cher, de belles relations dans le monde des arts. Mais, par-dessus tout, il était heureux du plaisir que sa fille goûtait au théâtre, car il l'aimait Claire profondément, exclusivement. Quand on disait devant lui qu'elle était jolie, il bougonnait « Vous la trouvez si belle que ça ? Moi, je ne sais pas. Est-ce que, parce que je suis habitué à elle, je ne peux pas m'imaginer que c'est une beauté ?» Au fond, ses protestations et ses dénégations ne servaient qu'à exciter l'interlocuteur pour l'amener à insister et à enchérir. La jeune fille adorait son père. Bernard jouissait dans sa famille d'une grande réputation d'intelligence et d'initiative. Claire avait reçu une instruction plus raffinée, mais elle sentait très bien que si son père avait appris tout ce qu'on lui avait enseigné à elle, il l'aurait su beaucoup mieux qu'elle. Elle était ravie de voir que tous les cousins, quand ils avaient un différend, venaient trouver Bernard, comme une espèce de caddie familial. Personne dans la famille n'entreprenait une affaire importante sans lui demander conseil. Elle avait aussi remarqué que l'esprit de son père s'adaptait à tout. Quand on allait au Théâtre Français, son jugement sur les pièces paraissait plein de sens et même de sensibilité. Bernard n'avait pas d'employé en dehors d'un vieux comptable dont l'incapacité était pour la famille un infatigable sujet de raillerie. Charmelin n'avait jamais été capable de recevoir un acheteur. Il avait fait dans toute sa vie une affaire de 45 francs. Quand il était seul au magasin, il suffisait qu'il indiquât le prix d'une marchandise pour que le client prît la porte à l'instant même, complètement dégoûté. Bernard, sans s'en rendre compte, tenait à ce vieux serviteur, qui était, pour le chef de la maison, le plus éloquent des repoussoirs. La plupart du temps, quand Bernard n'était pas chez lui, c'était sa fille qui recevait le monde, et quand il arrivait à Claire de vendre toute seule un bracelet ou une broche, son père en souriait d'un air supérieur et ravi. Chapitre 2. Claire avait reçu plusieurs fois le vicomte de Bérain. Le jeune homme avait trouvé la jeune fille fort agréable à regarder. D'autre part, il entrait dans ses plans de faire la cour à tout ce qui approchait de Bernard Lunéville. Il ne soupçonnait pas du tout que le marchand de diamants pût être flatté d'être en relation avec lui. Il se faisait à lui-même, quand il était devant le redoutable prêteur, l'effet d'être un fils de famille, sans aucun sérieux, d'un galopin. On l'aurait bien étonné si on lui avait dit que, devant des tiers, Bernard Lunéville citait parmi ses relations, avec gravité, le nom du vicomte de Bérain. Le jeune vicomte avait fait un semblant de cour à Claire. Il se figurait que c'était par calcul pour se gagner un allié dans la maison. Mais la grâce de Claire lui facilitait singulièrement cette comédie. Elle, très innocente, avait bien l'impression qu'elle plaisait au jeune homme, et cela la troublait un peu. Cependant, Bernard Lunéville faisait ses comptes. Si Georges de Bérain tardait trop à le rembourser, l'affaire devenait beaucoup moins avantageuse, étant donné que la commission portait sur un laps de temps beaucoup plus long. Pour les détails supplémentaires, il ne pouvait exiger un gros intérêt, car l'affaire eût cessé d'être correcte au point de vue strictement légal. Le mieux était de vendre encore au vicomte quelques autres bijoux avec un bénéfice qui compenserait la perte du retard. Mais il fallait attendre la proposition du jeune Bérain. Lunéville ne pouvait en prendre l'initiative. Monsieur Lunéville était un travailleur sérieux. Il ne s'éternisait pas sur une mauvaise affaire, qu'il passait à profits et pertes en faisant une croix. Quand Georges de Bérain vint le voir, Bernard lui dit qu'il avait éprouvé une grande désillusion. « Que voulez-vous ? Je me verrai obligé de poursuivre le recouvrement de mon argent, quitte à faire des frais qui resteront à ma charge, tant que vos affaires ne se seront pas améliorées. Je vous avoue, ajouta-t-il, que je ferai cela contre cœur, car j'ai de la sympathie pour vous, et je ne suis pas du tout satisfait de vous occasionner des ennuis. » Il parlait ainsi par une vieille habitude de commerçant, et ne se doutait pas qu'il était sincère quand il parlait de ses sentiments de sympathie. Le jeune homme, lui, ne croyait pas à ses belles protestations, et n'y voyait qu'un boniment d'usurier, désireux d'embarquer un fils de famille dans une nouvelle affaire. Docilement, et d'ailleurs parce qu'il le désirait, il demanda à acheter de nouveaux bijoux. Il ne s'agissait pas seulement pour lui de retirer les billets impayés. Il avait besoin, en outre, d'une quinzaine de mille francs liquides pour se remettre un peu à flot. Il allait donner, tant bien que mal, toutes ses précisions, quand la conversation fut interrompue par le départ de Lunéville, que tante Sarah attendait pour sortir. « Revenez un de ces jours, » dit Bernard. « D'ici là, je réfléchirai. » Georges écrivit, le soir même, une lettre de 4 pages, où il parla de 15 000 francs supplémentaires, auxquels il n'avait fait, dans leur entretien, qu'une vague allusion. Puis il revint timidement le jour suivant. Bien que ses besoins fussent urgents, il se sentit presque soulagé en apprenant que Bernard n'était pas chez lui et que la conversation, forcément, devait se remettre au lendemain. Claire était toute seule quand le jeune homme arriva. Papa, avec tante Sarah et tante Louise, était parti pour rendre visite à un vieil oncle qui habitait Vaugirard, à 20 minutes de métro seulement, mais qu'on ne songeait à aller voir que tous les 3 ans, quand l'arrivée d'un parent de province en donnait l'occasion. « Papa, dit Claire au jeune vicomte, n'est pas content de vous. Je sais que vous lui avez envoyé une lettre où vous lui demandez je ne sais au juste quoi. De traiter avec moi une nouvelle affaire. Et il n'a rien dit, mademoiselle ? Rien de précis. Quand votre lettre est arrivée, il l'a lue des yeux, il a hoché la tête et il a fait « Et quoi encore ?»« fit le jeune homme. « Ça ne me paraît pas aller très bien. » Claire fut ennuyée de le voir déconfit. « On ne sait jamais avec papa. D'abord, il fait celui qui ne veut rien entendre, et puis, brusquement, il vous accorde ce que vous lui demandez. » « Il me fait peur, votre père, » dit le jeune homme. Claire se mit à rire. « Il est pourtant bien gentil. » Bernard Lunéville avait dit qu'il ne rentrerait que très tard. Georges de Bérin, que l'on attendait ailleurs, n'avait pas le temps de rester jusqu'à la nuit. Il semblait normal qu'il partît tout de suite, puisqu'il n'avait aucune chance, ce jour-là, de voir M. Lunéville. Pourtant, il prolongea sa visite. Il ne se doutait pas de l'attrait qu'exerçait sur lui cette jolie fille. Il ne s'abandonnait pas au plaisir d'être avec elle. Il se disait qu'il n'était pas possible que la fille d'un arabe pareil n'eût pas dans le cœur un peu de férocité. Lunéville lui apparaissait, non comme un monstre, mais comme un être tellement différent de lui, tellement étranger. L'éloignement qu'il ressentait pour le père l'empêchait de se rapprocher de la fille. Elle le remercia des billets que M. Renaud de Sérisy avait envoyés la semaine précédente. Elle savait bien que c'était aussi au vicomte qu'elle devait en être reconnaissante. Elle parla des représentations auxquelles elle avait assisté. Le jeune homme allait rarement au théâtre, et c'était pour picorer bien tristement, du fond d'une loge, des sensations d'art qui lui arrivaient à travers des aigrettes luxueuses et par-dessus des épaules nues. Il faisait moins attention au jugement de Claire et à ses réflexions qu'à sa voix et qu'à ce charme qui émanait d'elle, malgré tout, et qui inspirait confiance, bien qu'elle fût la fille d'un usurier. Après une demi-heure d'entretien, il ne pensait plus aux soucis qui le tourmentaient, à ses besoins d'argent. Il ne pensait qu'à elle et n'avait que cette idée en tête. Pourquoi le sort l'avait-il ainsi rapproché de cet être séduisant, né dans un milieu si différent du sien et d'un père aussi peu avouable. Au moment de prendre congé, elle lui tendit la main, qu'il garda quelque temps dans la sienne. Elle n'osait la retirer, pour ne pas donner à ce geste une signification. Elle la fit glisser doucement hors de la main du jeune homme et passa ensuite deux doigts sur son front pour écarter une mèche de cheveux, devenue soudain extrêmement gênante, et que sans tarder il fallait mettre à l'alignement. Cette poignée de main s'était échangée dans le salon où Bernard recevait ses clients de marque. Comme Claire reconduisait le jeune Hubert jusqu'à la porte d'entrée, le vicomte se dit qu'il ne pouvait se quitter sans un serrement de main nouveau. Tout en gardant, comme la première fois, la main de Claire dans la sienne, « Je reviendrai demain après-midi. »« Je ne sais pas si papa sera là, » dit Claire, avec un air d'innocence qu'elle croyait peut-être sincère. « J'aurai le plaisir de vous rencontrer, » dit Georges. « Mais je ne suis rien dans la maison, et ce n'est pas moi qui peux vous accorder ce que vous demandez. »« Oui, mais d'ici à demain, vous pourrez peut-être plaider ma cause auprès de votre père. »« Je tâcherai. » « Papa, vous savez, ne me consulte pas pour ses affaires. Si je lui donne un conseil, comment le prendra-t-il? Enfin, j'essaierai tout de même, car moi, je n'ai pas peur de lui. » L'idée qu'on pouvait avoir peur de son père l'amusait décidément. Elle souriait. Cependant, il lui tenait toujours la main. La porte d'entrée était ouverte, ils étaient tous deux debout sur le paillasson du palier. À ce moment, quelqu'un descendit de l'étage au-dessus. Elle retira vivement sa main, qu'il lui laissa reprendre, et ce geste, un peu trop rapide, créa entre eux une espèce de complicité. Ils avaient parlé des affaires du vicomte. C'était comme une sorte de masque qu'ils mettaient l'un et l'autre. Au fond, quand il lui dit qu'il reviendrait le lendemain, Elle savait bien pourquoi, et toute son adresse naïve consistait à ne pas s'en apercevoir. Chapitre 3. Georges de Bérin avait pour maîtresse, depuis 2 ans, une femme du monde qui ne tenait pas énormément à lui et à qui il n'était pas attaché lui-même par des liens très vivaces. Mais il était bien entendu que si l'un des 2 amants avait été infidèle à l'autre, l'amant trahi en eût eu du ressentiment, et même, en se montant l'imagination, un sérieux désespoir. L'amante de Georges ne considérait pas l'amour comme la grande affaire de sa vie, mais comme l'ornement obligé de l'existence pour une jolie femme très en vue. Elle laissait au vicomte beaucoup de liberté. Il en profitait pour aller aux courses et aux cercles, ce qui finissait par lui coûter cher. Sa maîtresse était fort riche. Il était donc obligé de lui faire des cadeaux d'assez grande valeur, et la nécessité de ses présents lui paraissait plus impérieuse au moment où il n'avait pas le sou. C'était ces raisons qui l'avaient poussé à entrer en relation avec Bernard Lunéville. Il ne possédait, comme disponibilité, que la rente d'un héritage qu'il avait fait directement d'un oncle et qui lui procurait 30 000 francs par an. Ce n'était pas considérable au jour d'aujourd'hui, même pour un garçon qui demeurait chez ses parents, sans frais de logement et de nourriture. Son père, le comte Hubert de Bérin, habitait avec la comtesse, dans la rue de Lille, un vieil hôtel de famille où le meilleur de leur vie passait à se disputer sur des questions de pratiques religieuses. Le comte n'avait d'impiété que juste ce qu'il en fallait pour taquiner sa femme. C'était un sexagénaire à qui sa forte moustache grise et ses épais sourcils noirs donnaient une apparente rudesse. Les yeux un peu saillants s'ornaient en dessous de 2 bonnes poches confortables. Le comte de Bérin avait écrit, 20 ans auparavant, en collaboration avec un jeune agrégé, un ouvrage historique sur un ancêtre homme de guerre. Cet effort lui avait donné, une fois pour toutes, la figure d'un savant mondain, curieux des passe-temps de l'esprit. Mais son ouvrage, une fois publié, il avait arrêté net ses préoccupations intellectuelles et n'avait plus ouvert aucun livre, même le sien. Le seul travail cérébral qu'il se permit était une partie de bridge qu'il faisait tous les jours, à 5 heures tapant, à son cercle. Il ne parlait même plus politique, car depuis que la position des partis n'était plus seulement, comme au bon temps, une opposition de royalistes et de républicains, c'était devenu moins intéressant, moins sportif, trop compliqué. Il était de son monde et s'y rattachait par des liens plus forts que des convictions politiques ou sociales. Il était de son monde, voilà tout, et il lui semblait impossible de s'en séparer. Il tenait à l'argent avec toute l'énergie d'un homme qui n'a jamais su en gagner. Il se cramponnait à son bien parce que c'était son bien à lui, qui ne pouvait être remplacé par un autre bien, même équivalent. Son patrimoine avait une personnalité. Ce n'était pas de l'argent de virement. Avant que Georges eût fait cet héritage, il ne lui concédait que de maigres subsides. Depuis que son fils avait de l'argent à lui, le comte n'aurait plus compris qu'il en demanda. Mais pas un instant il n'avait songé à lui dire « Maintenant que tu as de quoi vivre, va habiter de ton côté. » C'eût été là un vrai manquement aux traditions de la famille. Les enfants demeuraient chez leurs parents jusqu'à leur mariage. D'ailleurs, il n'avait jamais donné à Georges le moindre conseil pour le placement de son héritage. Comme n'eût pas manqué de faire M. Bernard Lunéville si un enfant à lui s'était trouvé dans ce cas. L'argent qui était échu à Georges, bien que venant d'un parent, était de l'argent étranger au patrimoine, et il ne venait pas à l'idée du comte de s'occuper un seul instant de cette aubaine. Par une noble paresse héréditaire, il bornait ses soucis matériels à l'administration de son propre bien. Georges déjeunait d'ordinaire chez ses parents. Les repas étaient très simples, mais l'ancienneté du maître d'hôtel et la hauteur du plafond les maintenaient dans de bonnes traditions cérémonieuses. La comtesse de Bérain était une grande femme mince, aux gestes lents, aux cheveux gris, plats, vieillie assez vite. Elle avait été pour Georges et pour sa fille aînée, aujourd'hui mariée à un capitaine de hussards, une mère d'une tendresse uniforme, sans froideur et sans élan. Elle avait, bien entendu, gardé à son mari une fidélité absolue, à laquelle personne n'avait jamais essayé d'attenter. Le comte, de son côté, avait-il eu quelques aventures? En tout cas, personne ne l'avait jamais dit. Georges avait passé son enfance chez un oncle à la mode de Bretagne, qui habitait Rouen, à proximité d'un collège normand de plein air où le jeune homme avait fait ses études. Chez ce parent, qui était garçon, la vie était plus mouvementée et moins austère que dans la famille de Bérain. Monsieur Le Randon habitait une belle maison de campagne aux environs de la ville. La maîtresse de maison ne changeait pas trop souvent et c'était toujours une artiste lyrique, car l'oncle, sans être précisément musicien, aimait avoir un piano chez lui et que ce piano travaillât de son métier. Il se plaisait aux longs repas, il ne parlait pas beaucoup, mais entretenait bien la conversation, avec un sourire actif et l'approbation continuelle de sa grosse voix amusée. Il avait fait le tour du monde 2 fois dans sa jeunesse et n'en avait rapporté aucun souvenir. À 30 ans, il avait porté une barbe carrée, à 40 ans, une simple moustache courte, à 50, il s'était fait raser complètement. Ces modifications de sa physionomie avaient été les grands événements de sa vie. Pendant la guerre, bien qu'ayant passé l'âge, il avait repris du service, mais la station de la compagnie d'Orléans, où il commandait en chef, était mal orientée. La pneumonie, la pleurésie passaient en rafale sur le quai et emportèrent le pauvre capitaine de gare. Il avait partagé sa fortune entre différents membres de sa famille, avec de petits legs à différentes fortes chanteuses, voire même un des du gazon. Georges, que l'oncle aimait beaucoup, eut sa bonne part de l'héritage. Le jeune homme, quand éclata la guerre, commençait son service. Il était brigadier d'artillerie. Nommé sous-officier, il fit la première partie de la guerre dans un groupe de 75. Il obtint la ficelle, fut blessé 2 fois légèrement. Affecté à un état-major, il y resta 3 mois. Repris dans un groupe qu'il dut quitter assez vite après avoir été gazé sérieusement, il se trouvait en congé de réforme au moment de l'armistice et avait repris la vie civile depuis près d'un an. C'était un jeune homme blond, de 28 ans, solide mais fluet et qui paraissait 20 ans à peine. Il était élégant et plutôt fin d'esprit. Il n'avait rien de son père, dont il était pourtant bien le fils, car la vertu de Madame de Bérain était incontestable. Mais il n'avait rien de sa mère non plus, et pourtant aucune substitution d'enfant ne s'était produite à son berceau. Le jour même de l'entretien un peu trouble qui avait tenu arrêté quelques minutes Claire et le jeune homme sur le palier de Bernard Lunéville, Georges se rendit au cercle, où il rencontra Renaud de Sérisier, qu'il avait mis en relation avec Bernard. C'était chez son oncle de Rouen qu'il avait fait la connaissance de l'homme de lettres. Renaud de Sérisier avait été l'amant de cœur de Clara d'Angèle, une maîtresse de l'oncle. Clara ayant quitté l'oncle pour un autre monsieur plus riche, Renaud de Sérisier, qui préférait l'oncle au nouveau monsieur, n'avait pas hésité à rompre lui aussi avec l'ingrate amie. Il avait de petites rentes qui ne lui suffisaient pas. Gagnant un peu d'argent avec ses romans feuilletons, il arrivait à boucler son budget au moyen de quelques emprunts qu'il ne remboursait jamais, de sorte que son passif augmentait à chaque trimestre, mais son crédit était bon. Il avait, de plus, contracté des assurances sur la vie au profit de ses divers créanciers. Sa situation financière et celle des tiers intéressés n'avait donc rien que de satisfaisant. Renaud était un grand garçon, d'une cinquantaine d'années, mince, vêtu avec certaines prétentions au dandysme qui n'étaient pas absolument injustifiées. Il avait une femme légitime, plus âgée que lui de 10 ans, et qu'il ne sortait pas. Elle habitait dans un petit appartement des Batignolles, où Renaud venait coucher quelquefois, à 6 heures du matin. Il déjeunait d'ordinaire avec sa femme et se faisait pardonner ses absences continuelles en assurant à cette personne vénérable une existence matérielle à peu près tranquille. Il dînait presque tous les jours au cercle, jouait au poker avec une grande prétention et perdait. Il était intimement lié avec Georges, qui avait pour lui beaucoup de considération. Le vicomte était venu ce jour-là le mettre au courant de l'état de ses affaires dans la maison Lunéville. Il lui dit qu'il n'avait pas rencontré chez lui le marchand de diamants, mais par un sentiment de réserve qu'il n'analysa pas, il ne dit pas un mot de la jeune Claire. Le lendemain, il se rendit à nouveau au magasin de la rue Réaumur, avec l'espoir secret de ne pas y trouver Bernard Lunéville. Le marchand de diamants continuait ses visites de famille, en compagnie des deux tantes. Claire, à qui on avait demandé d'aller avec eux, prétendit qu'elle était fatiguée, et arriva même à le croire. En montant cet escalier, vers 3 heures de l'après-midi, Georges s'étonna de sentir battre son cœur. Il s'en étonna, et en éprouva en même temps une certaine satisfaction, le contentement qu'on ressent chaque fois que la vie vous promet du nouveau. « Est-ce que monsieur Lunéville est là ?» demanda-t-il à la bonne. « Non, monsieur. Monsieur Lunéville est sorti avec madame sa sœur. »« Et il n'y a personne ?»« Je crois que mademoiselle est là. Si monsieur veut entrer par ici, au salon, je vais aller la prévenir. » Lorsque Claire entra dans le salon, elle était aussi émue que Georges. Il y a des moments dans la vie où les êtres sont comme poussés par une volonté supérieure, que leurs petites âmes d'habitude ont toutes les peines du monde à suivre. Tout ce que Georges dit à ce moment-là, ce qu'il eut l'audace de dire, semblait être proféré par un être en dehors de lui. Un interprète impérieux avait pris d'autorité la direction de l'entretien. Grâce à cette aide puissante, le jeune homme fut capable d'exprimer, en termes précis, ce qu'il n'avait pas eu l'audace de se dire auparavant à lui-même. Il dit carrément qu'il était venu voir Bernard Lunéville avec l'espoir très ferme de ne pas le rencontrer et qu'il n'avait eu qu'un désir, c'était de trouver Claire seule. Le voile, qui la veille encore recouvrait ses intentions, avait été jeté au loin, d'un beau geste juvénile. Il n'était plus question des affaires de monsieur Lunéville, ni des affaires de Georges, ni de la pression qu'on demandait à la jeune fille d'exercer sur son père. Georges était dans une de ces minutes de gloire et d'insouciance où l'on poursuit, sans connaître l'hésitation, le but qu'il s'agit d'atteindre. Pareil à ses assaillants qui, après avoir rampé en se cachant jusqu'aux positions ennemies, se démasquent soudain et se dressent pour s'élancer à l'assaut. Il proclama que depuis qu'il venait dans la maison, il n'avait eu qu'une idée en tête, se rapprocher de Claire. Ce n'était pas absolument exact, sans doute, mais Georges ne mentait pas cependant, car au moment où il parlait ainsi, il croyait fermement qu'il disait vrai. Claire ne savait plus bien où elle se trouvait, et si elle était éveillée. Il lui semblait qu'elle n'arrivait pas à écouter tout ce qu'il disait, et pourtant elle ne perdait pas une de ses paroles. Ils ne purent jamais se rappeler ce qu'ils s'étaient raconté ce jour-là. Ils ne gardèrent que le souvenir d'un continuel enchantement. L'entretien, sans qu'ils s'en doutassent, dura très longtemps. Le jour avait baissé, mais ce n'était pas une question d'heure, ce n'était que pour ne pas gêner. La bonne, d'autorité, était entrée dans le salon, sans s'imaginer que ce monsieur y était encore. elle avait tourné le bouton d'électricité et il s'était vu tout à coup en pleine lumière, claire, plus belle que jamais, comme après une résurrection. C'est à ce moment seulement qu'il pensa qu'il était resté plus de 3 heures près d'elle. Par une sorte de réflexe de bonne éducation, il se leva pour prendre congé. Mais Claire lui dit gentiment, non sans audace, « Puisque vous avez attendu mon père jusqu'à 7 heures, il vaut mieux que vous restiez encore. Il ne tardera pas maintenant. » Elle ne supportait pas l'idée de se retrouver seule après son départ. « Vous avez raison, » fit-il très docilement. Quelques instants après, on entendit le bruit décidé de la clé du patron qui tournait dans la serrure. La tante Sarah, la tante Louise et Bernard entrèrent dans le salon. Ces dames saluèrent le vicomte et allèrent retirer leur chapeau. Claire suivit ses tantes pour laisser Georges causer tranquillement avec son père. Jamais solliciteur n'expliqua sa requête plus confusément. Il fallait décidément que l'affaire eût été mûrie, étudiée soigneusement au préalable par M. Lunéville pour qu'il arrivât à y comprendre quelque chose. En le quittant, Georges ne savait certainement pas ce qu'on lui avait répondu. Si on voulait lui consentir une nouvelle affaire de bijoux, ou si on lui avait opposé une fin de non-recevoir. Il alla ensuite s'habiller, car il dînait en ville, le soir même, chez sa maîtresse. Il fut, pendant toute la soirée, très animé, très loquace, et n'écouta pas un mot des choses qu'on lui disait, et auxquelles il répondait cependant. Mais le génie supérieur qui avait pris la direction de son être répondait miraculeusement à sa place. À la table familiale de Lunéville, la jeune Claire donna le spectacle, elle aussi, d'une extraordinaire animation et d'une distraction sans égale. Cette jeune fille bien élevée, qui aimait beaucoup son père, ne lui avait rien caché depuis son enfance. Interrogée sur ce que lui avait dit Georges avant la rentrée de sa famille, elle fit des réponses tellement évasives que, si Bernard avait eu le moindre soupçon, il aurait deviné nettement ce grand événement sentimental. D'ailleurs, au besoin, Claire eût menti avec une parfaite aisance, car le mensonge, pour dissimuler leurs amours, est aussi naturel aux amoureux que le geste du baiser. Chapitre 4. Cependant, Georges, ayant passé une partie de la soirée dans le monde, attendait avec impatience qu'on lui permît de se retirer pour aller retrouver au cercle Renaud de Sérisier, à qui il avait hâte de faire ses confidences. L'homme de lettres lui donna une preuve d'amitié considérable, car il n'hésita pas à abandonner une partie de poker, où il était en perte cependant, pour aller causer dans un des salons du cercle. La réserve que Georges avait observée la veille, en ce qui concernait Mademoiselle Lunéville, fit place à une grande expansion. Mais il avait trop besoin de dire à quelqu'un tout ce qu'il avait dans le cœur, et il ne connaissait que 2 personnes à qui il parla abondamment. C'était sa maîtresse et son ami Renaud. On comprendra qu'en la circonstance, Renaud se trouvait être le seul confident possible. Renaud l'écouta pendant une bonne demi-heure, avant de pouvoir prendre la parole. La conversation de Georges, c'était comme ces morceaux de musique d'une durée considérable, dont aucune indication ne permet de prévoir la fin. Enfin, il sembla que la confidence était tarie. Renaud, qu'il avait écouté avec beaucoup d'attention, gardait toujours le silence. Au bout d'un instant, « Mon petit Georges, vous êtes en train de faire une grosse bêtise. Je vais vous surprendre un peu en vous parlant sur un ton de moraliste. Mais c'est justement parce que j'ai fait, moi aussi, des quantités de sottises dans ma vie, que ma parole a une certaine autorité. Mieux qu'un moraliste de profession, je connais les faiblesses humaines. Vous me direz aussi que c'est moi qui vous ai conduit chez cet usurier et que je suis un peu responsable de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais c'était simplement des bêtises. ce n'était pas la grosse bêtise. « Dans quoi, mon petit Georges, allez-vous vous embarquer, je vous le demande? Ce qui m'inquiète dans votre cas, c'est que vous paraissez très pincé. C'est sérieux, il n'y a pas d'erreur. Voyons les choses exactement. Vous ne pouvez pas épouser cette jeune fille. Vous ne pouvez en faire que votre maîtresse. Et ça, mon vieux, c'est un peu grave. Il ne m'est pas permis de vous laisser poursuivre cette aventure. » À compter de cet instant, mon brave Georges, c'est moi qui prends la direction du jeu. Je vous envoie promener loin d'ici. Vous m'avez souvent parlé d'un voyage en Amérique. Jamais le moment n'a été mieux choisi. Dès demain, vous allez trouver votre papa, votre maman, et vous leur direz que vous partez par le prochain bateau. On vous trouvera une place sur un transatlantique. J'en fais mon affaire. À nous deux, nous imaginerons bien une blague qui justifiera aux yeux de vos parents l'urgence de votre départ. « Vous m'effrayez un peu, » dit Georges, « mais à supposer que je vous écoute, est-ce que ce départ sera possible? Comment puis-je m'en aller de Paris en devant tout cet argent à Lunéville ?»« Ne vous inquiétez pas de cela, vous avez droit par héritage à une rente viagère. » C'est un papier très régulier sur lequel vous trouverez de l'argent. Je me suis bien gardé de vous conseiller cela tout d'abord, parce que nous avions d'autres combinaisons possibles. Mais sur votre rente, nous allons vous obtenir 50 000 francs, de quoi payer le Lunéville en question et vous assurer une 20 000 francs pour attendre les événements. Je vous fais manger votre blé en herbe, mais que voulez-vous? Au grand mot, les grands remèdes. Georges resta songeur pendant un temps assez long. « Je me demandais, fit-il enfin, s'il n'y avait pas quelque lâcheté à suivre vos conseils, et j'hésitais à vous écouter. Mais c'est précisément parce que je sens en moi un sentiment sérieux pour cette jeune fille qu'il faut la préserver d'une aventure qui commencerait bien, joyeusement, magnifiquement, et qui, vous avez raison, risquerait de finir très mal. Mais pour cet emprunt que vous me dites, est-il possible d'avoir une solution dans un délai rapproché? C'est une affaire qu'on ne peut pas refuser, dit Renaud. En faveur du prêteur, vous prendrez une assurance sur la vie qui le couvrira de toute perte en cas de décès, c'est-à-dire de cessation de la rente viagère. La prime d'assurance à payer n'est pas forte pour 50 000 francs, surtout à votre âge. « Alors, fit Georges, je crois décidément que je ferais bien de vous écouter. Mais ne faut-il pas que j'aille voir cette jeune fille et que je lui explique ?»« Oh, ça, jamais de la vie !» dit Renaud. « Je vous ligoterai plutôt rudement et vous porterai moi-même sur le pont du navire qui vous emmènera. Si vous y retournez, vous êtes fichu, mon vieux. Je vous le dis de toute la force de mon expérience. » « Je pense qu'il y a un départ dans 2 jours, soit au Havre, soit à Liverpool. Je me fais fort de vous faire conclure votre emprunt demain, et vous aurez tout de suite les fonds. On en prélèvera d'abord une forte partie pour régler séance tenante le père Lunéville. Si les formalités de l'assurance nous retardent, vous me donnerez toutes les procurations nécessaires. » Comme il voyait le jeune homme encore hésitant, « Georges, lui dit-il, « vous êtes un honnête homme. Certes, je comprends que vous ayez des scrupules à l'idée de laisser cette jeune fille en plan après tout ce que vous avez dû lui raconter. Mais, mon vieux, que voulez-vous? Plus vous attendrez, plus ça sera grave. Il y a déjà du mal de fait, mais il est encore réparable. Je me charge de faire parvenir à cette fille une lettre gentille que nous rédigerons ensemble, en lui expliquant qu'il vous est nécessaire de vous en aller en Amérique. Faudra-t-il ne pas lui dire la véritable raison de ce départ? C'est ce que nous verrons. Je crois qu'il vaut mieux ne pas en parler. Il y a toujours avantage à reculer un aveu pénible et à faire confiance au temps. » Du moment que la chose était décidée, il ne fallait pas perdre de vue le départ de Georges. L'emprunt et les autres formalités, le tout s'effectua en 2 jours. Chapitre 5. Monsieur Lunéville fut assez surpris de recevoir la visite de Renaud, qui venait acquitter la dette du jeune vicomte. Renaud s'était aussi procuré 3 000 francs pour régler sa dette à lui, et par un souci élégant de délicatesse, il ne les avait pas empruntés à Georges. Bernard accepta ce remboursement avec étonnement, mais non sans satisfaction. Renaud s'était arrangé pour faire remettre à Claire, à l'insu de Lunéville, une lettre de Georges, fort tendre. Les liens si légers, si récents qui s'étaient établis entre eux, à peine formés, s'étaient rompus. Le mot de rupture n'était pas précisément prononcé, mais rien n'indiquait que cette séparation n'était pas définitive. Il avait fallu toute l'autorité de Renaud pour que le jeune homme consentît à écrire une lettre aussi dénuée d'espoir. Il est probable que cette autorité de Renaud aurait été impuissante si Georges avait pu imaginer l'impression abominable que la lecture de ces 2 pages fit sur la jeune fille. Elle était d'autant plus torturée qu'elle trouvait la lettre de Georges plus gentille et qu'elle ne doutait qu'à peine de la tendresse véritable de l'ami qu'elle avait perdu. Elle se retira dans sa chambre en invoquant une migraine. Vraiment, cette affection de femme ne semble avoir été inventée que pour de telles circonstances. La migraine est fausse si souvent que lorsque vraiment elle survient, on ne la reconnaît plus. On lui donne alors le nom de douleur névralgique ou même de congestion cérébrale. Bernard Lunéville ne songea pas même une minute à établir une liaison entre cette indisposition de sa fille et l'avis qu'il venait de recevoir du départ du jeune Bérin. La petite idylle de Claire et de Georges avait été vraiment de trop courte durée pour que le soupçon des parents, toujours en retard, eût pu prendre naissance. Ni Bernard ni sa belle-sœur ne s'étonnèrent que la jeune fille refusât de venir le soir au théâtre avec eux. Ils allaient en effet à l'opéra, car en prenant congé, Renaud, dégagé de sa dette, avait tenu, toujours par élégance, à laisser une loge à Monsieur Lunéville. Mais les jours qui suivirent, la petite ne se rétablit pas, et papa commença à s'alarmer. Elle ne voulait pas qu'on fît venir un médecin. On dut user d'un subterfuge et inviter à dîner Monsieur Moriel, le docteur de la maison. Il compta les pulsations de Claire, l'ausculta, l'interrogea. Elle présentait les signes extérieurs d'une santé parfaite. Le docteur prit à part Lunéville et lui demanda si Claire avait eu quelques ennuis. Lunéville était bien certain qu'il n'en était rien. Elle garda son secret pendant plusieurs semaines, les paupières brûlées, la face de plus en plus amaigrie, jusqu'au jour où la force lui manqua. Alors, un soir, pressée de questions par tante Louise, avec qui elle était restée en tête à tête, elle lui avoua ses sentiments et sa tristesse, après lui avoir fait jurer auparavant de ne rien dire à Bernard Lunéville. Louise, pour ne pas troubler la nuit de son beau-frère, garda religieusement ce secret jusqu'au lendemain matin. La première impression de Bernard fut une espèce de soulagement. Son expérience sentimentale avait été assez courte. Il n'attachait aucune importance aux affaires de cœur. Il alla jusqu'à dire à Louise « C'est heureux que cette petite n'ait aucun organe lésé et qu'il s'agisse simplement d'une question pareille. » Comme si ses blessures n'étaient pas plus inguérissables que les autres. Ce ne fut qu'au bout d'une semaine qu'il s'aperçut que c'était très grave. Il avait fallu, pour le convaincre, de nombreuses conversations avec Louise et 2 ou 3 entretiens avec le docteur. Alors, comme toutes les convictions lentes, celle-là, quand elle s'accusa, fut violente et profonde. À partir du moment où Louise lui avait révélé la véritable raison de l'état de Claire, il avait regardé sa fille avec une espèce d'hostilité boudeuse, non par jalousie sentimentale, mais parce qu'il n'aimait pas ce qui ne lui paraissait pas sérieux. Bien entendu, il n'avait pas trop manifesté cette hostilité, puisqu'il était entendu avec Louise qu'il ne devait rien savoir. D'ailleurs, Claire, mise au courant par sa tante, savait parfaitement que son père savait tout. Mais elle était censée ne pas le savoir. Bernard, de son côté, savait également que Claire savait qu'il savait. Tous observaient cette attitude d'ignorance qui leur était très commode parce qu'elle les dispensait de parler de ce sujet gênant. Dès que les idées de Bernard se furent modifiées, sa tête se mit à travailler pour trouver le moyen de sortir de cette mauvaise situation. En présence d'une affaire grave, il surgissait tout de suite en lui un sentiment de devoir impérieux, presque religieux, qui le contraignait à user de tous les moyens possibles pour trouver au mal un remède. Son dernier inventaire avait été particulièrement brillant. Il avait dépassé son 2e million. Il était résolu à un gros sacrifice pour que sa fille épousât celui qu'elle aimait. Il était trop intelligent pour ne pas voir la grosse difficulté qui faisait obstacle à une telle union, mais il n'était pas assez averti pour sentir nettement qu'elle était insurmontable. Bernard n'était jamais sorti de son milieu. La réputation dont il jouissait dans son entourage, cette importante considération qui l'environnait, l'empêchait d'imaginer que, dans un autre monde, on put avoir contre lui des préventions radicales. Une fois le projet arrêté dans sa tête, il aurait dû se renseigner davantage avant de le communiquer à sa fille. Mais il était trop bon homme pour pouvoir se retenir longtemps quand il avait à dire quelque chose d'agréable à un être qu'il aimait. Un jour, après le déjeuner, en présence de tante Louise, il regarda Claire et, en affectant un peu de rudesse, « Alors, quoi? C'est sérieux, cette histoire-là ?» Elle leva vers lui des yeux qui s'emplirent de larmes. « Qu'est-ce que tu veux? Si c'est si sérieux que ça, on va tâcher de vous marier. » Cette fois, elle le regarda avec stupéfaction. Quelque chose vacillait dans sa pauvre tête. « Je vais m'informer. Si tu es sûr de ses sentiments à lui, je vais voir si ses parents seraient disposés à donner leur consentement. » Certes, Claire, par son éducation, était mieux placée que son père pour se rendre compte de la grosse improbabilité d'une réalisation pareille. Mais elle était si affaiblie, et surtout si amoureuse, qu'il y avait en elle une espèce de foi dans l'impossible. Elle se sentit envahie d'espoir. Bernard s'était dit « Je vais d'abord en parler à Renaud de Sérisier. » Lui, certainement, savait à quoi s'en tenir sur les sentiments du jeune homme. Bernard pensait, tout à fait à part lui, que c'était la première chose à savoir et qu'il était inutile de faire une démarche auprès des parents si le jeune vicomte n'était pas vraiment sincère. Il demanda donc un rendez-vous à l'homme de lettres, qui n'était jamais visible à son domicile, et qui lui indiqua une heure pour le retrouver au cercle. Il s'y rendit vers la fin de l'après-midi, et Renaud se présenta bientôt, toujours très poli, mais tout de même avec plus de détachement qu'à l'époque où il était encore accroché chez le père Lunéville. « Monsieur de Sérisier, vous allez être un peu étonné quand vous saurez le but de ma visite. Voilà, vous connaissez ma jeune fille, vous savez l'attachement que j'ai pour elle. Nous sommes restés seuls au monde après la mort de ma pauvre femme. Cette petite est tout pour moi. Je dois reconnaître que j'ai été imprudent, mais on ne s'attend jamais à ce qui peut arriver. Je n'aurais pas dû laisser entrer un jeune homme dans la maison, et surtout laisser causer ces jeunes gens ensemble. Maintenant, le mal est fait. Cette petite, qui est une innocente petite fille, a subi l'influence de ce garçon beaucoup plus, sans doute, qu'elle ne se l'imaginait. L'enfant dit que ses sentiments sont partagés, mais c'est elle qui le dit. Elle peut se tromper. Si elle a raison, et si vraiment le jeune homme a un sentiment pour elle, je ne veux pas contrarier les idées de ma fille, et je tâcherai que ces jeunes gens soient heureux. Je ne songeais pas à me séparer de Claire aussitôt. D'autre part, j'aurais préféré la voir épouser un jeune homme de son monde, qui ne soit pas au-dessus d'elle. Je ne parle pas de la question matérielle. Elle est importante, évidemment, mais ma situation personnelle me permet de la faire passer au second plan. Je vous dirai que cet enfant m'a été demandé deux fois cette année. Des propositions avantageuses, mais ça ne me plaisait pas tout à fait. J'aurais peut-être dû être moins difficile. À ce moment, elle ne connaissait pas le jeune homme, et bien des ennuis auraient été évités. Mais enfin, ce qui est fait, et il n'y a pas à y revenir. J'ai donc vu cette petite souffrante. Souffrante, c'est trop peu dire. Malade, a donné vraiment de graves inquiétudes sur sa santé. Alors je me suis dit, Lunéville, mon ami, il n'y a pas à tergiverser. La vie de ton enfant avant tout. Il faut tenter l'impossible pour la sauver. Je me rends compte, en effet, que c'est sinon impossible, du moins d'une excessive difficulté, étant donné la différence des milieux. Et je dois même vous dire que, depuis que je vous en parle, à mesure que j'arrive plus près du fait, je vois cette difficulté prendre du corps. Sur ce sujet, monsieur de Sérisier, je vous poserai donc deux questions. Et je vous demanderai, étant donné nos bonnes relations, de bien vouloir y répondre directement. Premièrement, est-ce que ce jeune homme aime vraiment ma fille? Deuxièmement, s'il aime ma fille, croyez-vous qu'il soit possible de les marier? Monsieur Lunéville, dit Renaud au bout d'un instant, vous n'avez jamais approché le comte et la comtesse de Bérin, les parents de Georges? Non, monsieur Renaud, jamais, dit Bernard, assez fin pour sentir ce qu'il y avait déjà de menace dans cette question. Oui, dit Renaud, oui, si vous les connaissiez tant soit peu, vous vous rendriez compte que votre projet est, je ne dirais pas quasi impossible, mais tout à fait impossible à réaliser. Les sentiments de Georges ne sont pas en cause. Je crois que votre fille lui plaît beaucoup. S'il était maître de sa vie, l'épouserait-il? Je crois que oui. Il est émancipé, il est sorti de la tutelle familiale. S'est-il complètement affranchi des idées de son monde? Cette indépendance d'esprit apparente est-elle définitive? Ne s'est-il évadé moralement de son milieu qu'avec une permission provisoire? Je n'en sais rien. Ce n'est pas la peine de se poser cette question, car la situation telle qu'elle se présente est beaucoup plus compliquée que s'il était maître de ses actions. Vous ne connaissez pas, je le répète, le père et la mère de Georges. Autrement, vous ne vous seriez pas arrêté une seconde au projet que vous avez formé. Bernard, d'une voix faible, demanda que Renaud lui apportât autre chose qu'une impression. Lui fournit des raisons. Écoutez, monsieur de Sérisier, je comprends fort bien ce que vous dites. Il n'y a aucun rapprochement à faire entre Bernard Lunéville, le fils d'un petit marchand de confection d'Épinal, dont le père, je puis vous le dire, a porté la balle dans les foires jusqu'à l'âge de 30 ans. Bernard Lunéville, je puis vous le dire aussi, a débuté comme petit employé de bijouterie, qui ouvrait le magasin et qui avait même quelquefois l'honneur de le balayer le matin. Je le répète, il n'y a aucune comparaison entre Bernard Lunéville et le comte de Bérin. Maintenant, au point de vue de l'honnêteté, de la probité, je ne crois pas que je suis attaquable. Renaud eut assez de maîtrise de lui-même pour ne pas sursauter à cette déclaration. Il ignorait que Lunéville faisait son métier de quasi-usurier avec une parfaite simplicité d'âme. En son fort intérieur, Renaud le considérait comme un vieux forban, et cette déclaration du marchand de diamants ne le fit pas changer d'avis. Tout de même, il commença à discerner chez son interlocuteur une espèce d'inconscience, qui d'ailleurs le toucha moins qu'elle ne l'irrita. Il pensait que ces gens avaient un certain toupet de rançonner le monde et de se décerner ensuite, sinon par mauvaise foi, mais par une ignorance grossière, des brevets d'honnêteté. L'écrivain sentit monter en lui une sorte de franchise professionnelle qui le débarrassait de sa politesse. Il dirait son fait à ce vieux Shylock, peut-être aussi par un sentiment de vengeance instinctive. Trop souvent, il s'était senti dans une position inférieure devant ce tigre de Bernard, qui avait profité de ses besoins d'argent. Il n'était pas fâché de l'occasion qui s'offrait à lui de corriger cette bête fauve. Il le fit d'ailleurs en dompteur homme du monde. « Monsieur Lunéville, vous dites que votre réputation est inattaquable. Et ce n'est pas moi qui oserais prétendre le contraire. Je vous suis d'ailleurs trop reconnaissant des services que vous m'avez rendus. Ne parlons pas de cela. » « Ah, dit Renaud, c'est de cela précisément que nous sommes obligés de parler. Je dois reconnaître que vous avez toujours été très correct avec moi, que vous m'avez toujours donné ce que vous m'avez promis, et que votre parole a toujours valu un mot d'écrit. Mais tout de même, monsieur Lunéville, ce que j'admettais parfaitement, moi, et ce que j'étais d'ailleurs mal fondé à ne pas admettre, puisque c'était moi qui sollicitais de vous ces petites opérations, il y a bien des gens qui y trouvent à redire. Somme toute, monsieur Lunéville, vous prêtiez de l'argent à gros intérêts. » On ne peut pas dire ça, dit Bernard. Je vous affirme qu'on ne peut relever contre moi aucune opération incorrecte. Au point de vue légal. Mais vous n'empêcherez pas les gens de dire que lorsque vous vendiez 3 000 francs de bijoux contre 3 000 francs de billets, et que vous vous arrangiez pour faire racheter par un ami à vous vos marchandises aux 2/3 du prix d'achat, vous faisiez une affaire d'usure. Je n'ai jamais pensé faire mal en faisant cela, dit très bonnement Lunéville. C'est possible, dit Renaud, mais ce n'est pas vous qui faites la loi morale. J'essaie de vous suivre, monsieur Renaud, et je vous assure, je me demande, avec beaucoup de bonne volonté, en quoi je puis avoir tort. Vous me reprochez de vendre des marchandises trop chères. C'est une chose qui arrive dans tous les métiers. Ne perdons pas de vue ces deux points, monsieur Lunéville, dit Renaud un peu plus sèchement. Ce que vous m'avez vendu trop cher, vous me l'avez racheté en sous-main. D'autre part, vous me saviez gêné. Je ne dis pas précisément que vous profitiez de la situation. Monsieur Renaud, je n'ai jamais forcé personne. Non, vous ne poussiez pas à la consommation, mais la nécessité m'obligeait à avoir recours à vos bons offices, et cette nécessité, vous la laissiez travailler pour vous. Je vous en prie, ne m'interrompez pas. Je sais ce que vous allez m'objecter. Je serai le premier à dire avec vous que lorsque l'opinion publique se montre sévère pour des gens qui vendent de l'argent très cher, cette sévérité est un peu exagérée. Elle est faite, cette sévérité de l'opinion, de la rancune des emprunteurs, qui souvent, au point de vue moral, ne sont pas très recommandables. Il est juste que s'il n'y avait pas de joueurs et de dissipateurs, il n'y aurait pas d'usuriers. Monsieur de Sérisier, vous avez tort d'employer ce mot quand vous me parlez. Je ne fais pas de personnalité, monsieur Lunéville, mais je suis bien obligé de vous dire que si vous allez trouver les parents de Georges, et s'ils se renseignent sur votre compte, ils seraient bien capables, eux, de vous donner cette appellation que vous repoussez. Les gens qui font payer l'argent très cher ne sont pas bien vus, ajouta Renaud, avec une douceur de ton qui n'était pas complètement ironique. On admet parfaitement que des commerçants vendent leurs marchandises très au-dessus du cours. Cela tient à ce que les cours ne sont pas très exactement fixés. On sait que telle perle vaut tant de carats quand elle est d'une certaine grosseur et d'un certain éclat. Mais les cours changent d'une semaine à l'autre, et en outre, on peut apprécier différemment la qualité d'une perle ou d'une pierre. Tandis qu'un billet de 1 000 francs étant marqué 1 000 francs, il y a un certain cynisme à le vendre 2 000. C'est précisément ce cynisme qui n'est pas sympathique à tout le monde. Monsieur Lunéville, je ne veux pas vous détourner de l'idée d'aller faire une demande auprès du comte et de la comtesse de Bérain, mais je dois vous dire que ma conviction absolue est que cette démarche sera inutile et malencontreuse. Et j'ajoute encore ceci, que si, par impossible, les parents de Georges accueillaient favorablement vos projets, tout en étant sûr des sentiments du dit Georges, je ne suis pas sûr de son assentiment. Et pourtant, il est très probable, il est à peu près certain qu'il aime beaucoup Mademoiselle Lunéville. Alors, vous voyez le danger, Monsieur Lunéville. Supposez, je vous répète que c'est impossible, mais supposez un instant que le comte et la comtesse vous déclarent « Nous ferons ce que voudra notre fils » et que le vicomte ne marque pas l'empressement que vous souhaitiez. C'est vous dire qu'il me paraît extrêmement imprudent de faire cette démarche avant le retour du jeune homme en question. »